Chapitre 4 Qui veut commander doit apprendre à obéir. Par les chemins montagneux, jadis parcourus par d'audacieux contrebandiers, chemina Nacklauer jusqu'à la petite ville bavaroise de Gravenau. De là, elle se fit conduire par une carriole de paysans jusqu'à la station du chemin de fer la plus rapprochée. Quelques heures après, elle se trouvait à Munich. Dans cette ville royale, elle reprit enfin pleine possession d'elle-même et se mit à examiner minutieusement le passeport de la colporteuse. L'âge et les différentes indications qui étaient portées comme signalement pouvaient tout aussi bien s'appliquer à Anna, sauf une que cette dernière remarqua avec effroi, cheveux rouges. Son effroi ne fut néanmoins que de courte durée. Après un court instant de réflexion, elle eut victorieusement résolu la difficulté. Les journaux de Vienne lui avaient appris que la femme d'un peintre renommé, elle-même actrice dans un théâtre des faubourgs, s'était changée de brunette en blonde dorée d'après une méthode découverte à Paris. Dès lors, sans crainte de voir sa supercherie découverte, pouvait-elle utiliser le passeport de Charlotta Kulisecki et se faire passer pour la défunte? Tout d'abord, elle se rendit chez un coiffeur qui lui avait été désigné comme le premier de Munich et lui demanda s'il était au courant de la découverte parisienne. Comme cet homme le lui affirmait, tout en riant, elle lui dit qu'elle préférait une chevelure absolument acajou à une chevelure blond dorée. Le coiffeur, s'étant engagé à donner aux cheveux d'Anna la teinte demandée en l'espace de quelques jours, elle le quitta, complètement rassurée, envoya chercher sa malle à la gare et se rendit dans un hôtel modeste. Tant que dura le traitement du coiffeur, elle ne quitta pas sa chambre et s'y fit servir tous ses repas. Mais lorsque, vers le 15e jour, sa chevelure brune fut devenue d'un or rouge semblable à celui des Nibelungen, contrastant étrangement avec ses yeux foncés et donnant à tout son visage quelque chose de diaboliquement enchanteur. Couverte d'un voile épais, elle quitta l'hôtel et prit ailleurs une chambre au mois. Là, elle changea de vêtements, ce qu'elle avait à Budweis et à Goldrain, et une heure plus tard, belle à ravir et, certes en tout semblable à la déesse de la bourse en temps de l'onde, vêtue de batiste blanche garnie de dentelle, on la vit trotter d'un pas léger, élastique, par les rues de Munich. Elle s'arrêta devant l'étalage des riches magasins, contemplant toutes ces belles choses de l'air d'une femme qui en a eu sa part, qui en possède encore, et pour elle voulut-elle en posséder encore davantage à l'instant même. Comme elle se faisait admirer de tous les élégants qui allaient et venaient, elle se mit à envisager une grave détermination alors qu'un sourire frivole courait sur ses lèvres. Elle brisa avec son passé et se jura à elle-même de suivre désormais, sans égard pour autrui, sans faiblesse, sans pitié, la triste voie qu'elle avait choisie, qu'elle s'était tracée, et de courir au but certain où sa haine de l'homme et son infernal égoïsme l'avaient conduite. Elle voulait devenir une grande dame riche et puissante, afin de pouvoir se venger sur tout le genre humain de la trahison d'un homme qui ne lui avait laissé pour tout sentiment que le mépris. Néanmoins, pour atteindre son but, elle devait se mettre en vue. Aussi bien se résolut-elle à monter sur la scène, soit comme danseuse, soit comme actrice. Maintes fois, elle avait entendu dire que les femmes de théâtre, en dépit de leur basse extraction et de leur conduite légère, parvenaient finalement à devenir les femmes légitimes de barons, comtes ou princes, voire de régents qui les épousaient de la main gauche. Une circonstance imprévue vint fixer son choix. Sur un coin de mur s'étalait une affiche. Elle le lut Cirque Sibaldi, aujourd'hui grande représentation, etc. Elle retourna chez elle et envoya chercher une loge. La représentation était à peine commencée, comme elle parut dans le cirque. Tous les regards se tournèrent aussitôt vers la nouvelle et hétéroclite, bien qu'éblouissante apparition, et Anna Clauer, ou plutôt, ainsi qu'elle se nommait désormais, Sarolta Kulileski, se montra si aimable, flirtant avec chacun, qu'à la fin de la représentation, une douzaine d'esclaves de toutes les classes de la société étaient enchaînés à son char de triomphe. L'un d'eux, un jeune et élégant officier de cavalerie, fut assez rusé pour l'attendre à la sortie, la suivre et sur-le-champ lui offrir son bras et son assistance. Elle le dévisagea de haut en bas, puis se prit à rire. Mais pour qui me prenez-vous? Dit-elle. Je ne suis pas une fille. Les filles ont du cœur, moi je n'en ai plus. Là-dessus, elle abandonna le bras du galant officier et le laissa au plus haut point stupéfait. Cette même nuit, Anna Sarolta décida de se faire écuyère. Une belle écuyère n'était, elle le savait bien, rien de neuf, mais une écuyère belle autant que vertueuse ne pouvait manquer de produire une sensation parmi les hommes de toute classe, et elle pourrait à son gré les enchaîner et en faire ses esclaves. Quant à elle, ce ne serait qu'un jeu de se montrer vertueuse, et cela dans l'acception la plus cruelle du mot, car elle n'était plus capable d'aimer et de s'enrichir ainsi. Le monde s'ouvrait devant elle, et de sa lutte contre lui, elle devait retirer la victoire. Le brillant éclairage du cirque et son élégant et aristocratique public, la hardiesse de l'art de la haute école, de même que le riche et séduisant costume d'écuyère, l'avaient complètement fasciné. Dès le lendemain matin, vêtue d'un lourd costume de velours noir, violet sombre, coiffée d'un petit bonnet marie-histoire, de même étoffe ornée d'une plume blanche ondoyante, elle se rendit auprès du directeur, écuyer de profession, qui, ébloui par son apparence, ne fit presque aucune difficulté pour l'admettre dans sa troupe. Il ne faut pas tomber une seule fois, madame, fit néanmoins le petit et agile Italien au teint bronzé. Qui veut commander doit apprendre à obéir. L'école de notre art est dure et sévère. Et nous ne pourrions pas, d'un autre côté, avoir le courage de nous charger de votre instruction si nous avions la perspective que vous nous quittiez dès que vous n'auriez plus la patience de tenter une épreuve difficile. Il vous faut donc nous signer un papier au terme duquel vous vous engagez nous appartenir pendant 3 ans. Votre travail est un vrai travail d'esclave, et il doit être tel. Notre discipline est une discipline de fer, toute militaire. Anna n'hésita pas un instant. Elle savait que sa nature d'acier et sa volonté satanique étaient capables de surmonter tous les obstacles. Aussi bien signa-t-elle sur-le-champ et sans mot dire le terrible contrat, bien qu'un moment après, les beautés du cirque, vêtue qu'elle était de sa toilette, négligée d'exercice qu'elle était même tenue de conserver pour la répétition, lui eussent enlevé une bonne partie de ses illusions. Dès le lendemain, elle se rendit chez le directeur Cibaldi et l'informa qu'elle était prête à se confier à lui et à sa troupe de Munich pour faire ensuite un tour dans le nord. Elle commença ses classes à Cologne. Elle n'eut pas seulement, ainsi que le lui prouvèrent bientôt les événements, à lutter contre les difficultés de la haute école et la mauvaise humeur du directeur, qui, à l'aide d'un fouet et de la mystérieuse puissance de ses imprécations et de ses injures italiennes, croyait pouvoir dresser les hommes comme des chevaux, mais encore contre les railleries de ses collègues hommes et la jalousie de ses collègues femmes, et particulièrement contre la directrice, Arabella Cibaldi, petite italienne, maigrichonne, au tempérament bilieux. Le mari de cette dernière, véritable démon et valet de bourreau au manège, n'en était pas moins un véritable agneau à l'égard de la séduisante Sarolta, et portait toutes ses attentions sur elle. Sarolta, car c'est ainsi qu'Anna Clower se nommait maintenant comme écuyère, si bien que l'exsangue Arabella en était fortement inquiété. Ainsi, Sarolta prit à franchir, comme en jouant, tous les obstacles. Dès le premier jour, elle fit preuve à cheval de l'adresse et de la hardiesse d'une amazone consommée. Elle se livra aux exercices les plus dangereux avec une espèce de courage moqueur qui sentait la pratique, témoignant toujours d'une application de fer absolument infatigable. Elle obéissait au commandement du patron avec la même passivité aveugle qu'elle l'eût fait un cheval. Toutefois, plus elle donnait de satisfaction à Chibaldi, plus elle avait à souffrir des autres. Monsieur Jacques, le clown, s'était mis à amuser toute la troupe à ses dépens, se permettant à son égard les plaisanteries les plus triviales. Mais au lieu de se mettre à pleurer ou à gémir sur son sort, comme tout autre novice l'eût fait à sa place, elle ne faisait qu'en rire et son hilarité désarmait le railleur. La grossièreté de Brown, l'écuyer des tours de force, ne provoquait chez elle que la politesse la plus raffinée. Aux piques et aux calomnies de Miss Tanet, la première écuyère, elle n'opposait que d'humbles prévenances, 1000 services et 1000 complaisances. Quant au tour de polisson que lui jouait ce jeune gamin de Williams, elle ne tardait pas à y mettre fin à l'aide de cadeaux, de friandises et de soins quasi maternels. Si parfois, enfin, la signora Arabella se risquait à venir au manège pour l'exciter d'un coup de fouet, Sarolta lui baisait régulièrement la main après la leçon, disant, avec une assurance stéréotypée, qu'elle s'estimait heureuse d'être frappée par elle, car la main qui aime bien châtie bien. Elle parvint ainsi, peu à peu, à gagner tout le monde, à se rendre indispensable à tout le monde, et c'est qu'elle s'en aperçut à tirer parti de tout le monde. Du directeur et de sa femme, elle apprit un bon italien, de Monsieur Jacques, le français le plus élégant, Mr. Brown, qui en réalité était hongrois et s'appelait Malcha aussi, lui enseigna le magyar, sa propre langue, qu'elle parvint bientôt à parler comme une véritable hongroise. Quant à Miss Tanet, de son vrai nom Wilhelmine Sportner, native de Havre-Novre, elle l'aida à changer le doux dialecte viennois contre le rude et correct haut allemand. Lorsqu'enfin, à Francfort-sur-le-Main, elle parut pour la première fois en public et remporta un éblouissant succès, elle, jadis si maltraitée et raillée, devint l'enfant gâté du directeur et de toute la troupe, et se mit à son tour à tyranniser ses anciens tyrans. Partout où la troupe donnait des représentations, Sarolta était poursuivie par les incivilités des hommes les plus beaux et les plus opulents des lieux où elle passait. Mais elle affectait une froideur incroyable à l'égard de leurs avances, de sorte qu'elle reçut bientôt universellement le surnom de « la vertueuse écuyère ». Chapitre 5. La vertueuse écuyère. Le contrat de 3 ans que Sarolta avait signé avec son directeur était près d'expirer, alors que la troupe donnait des représentations à Budapest et y causait une telle sensation, spécialement grâce à la beauté et à la témérité de Sarolta, qu'une grande partie de la noblesse du pays se rendit dans la capitale hongroise afin d'y assister aux représentations données par le sire Chibaldi, car pour un magyar, rien ne surpasse le spectacle. Cela ne faisait pas du tout l'affaire de signor Chibaldi de perdre à un tel moment la perle de sa troupe. Aussi bien s'appliqua-t-il à faire signer un nouveau contrat à Sarolta. Pour l'y amener, il rampa littéralement devant elle et la combla des épithètes les plus flatteuses, des diminutifs les plus doux et des superlatifs les plus enthousiastes. Personne n'aurait osé lui ouvrir la barrière ou l'aider à descendre de cheval, car un de ses galants se hâtait toujours, en ce cas, de lui présenter la main, alors qu'elle, sans le remercier, sans même lui adresser un coup d'œil aimable, posait son pied dans cette main, puis s'élançait à terre. Elle était désormais maîtresse de la situation et entendait bien jouer maintenant à la despote consommée, comme autrefois à la fille et à l'écolière. Elle possédait sa propre garde-robe, et malheur à la dame de la troupe qui venait à sa rencontre lorsqu'elle s'annonçait, ou qui, recevant l'ordre de s'écarter, n'obéissait pas à son injonction, elle lui faisait accomplir le service de femme de chambre. Elle n'épargnait pas plus la directrice, qui maintenant lui enlevait et lui mettait les bottes avec enthousiasme, recevant des gifles pour tout remerciement. Tous étaient ses esclaves, et elle régnait à l'aide de la cravache qu'elle appliquait même sans aucun égard à cet athlète qu'était Brown, comme aussi à ce chétif petit clown, M. Jacques, et point n'était besoin d'une raillerie ou d'une désobéissance pour attirer l'emploi de son sceptre élastique. Elle maltraitait les gens par plaisir. Elle torturait après son entourage. Et si quelqu'un se révoltait contre elle, elle passait jugement contre lui et le châtiait comme un nègre rebelle. Quiconque se trouvait près d'elle tremblait devant elle. Et plus elle se faisait craindre, plus elle jubilait, plus elle paraissait se sentir heureuse. Aussi bien à Pécht, les grands seigneurs ou les financiers, jeunes ou vieux, l'approchaient-ils sans réussir à nouer la moindre intrigue. Sarolta a poussé l'austérité au point de leur renvoyer non seulement leurs billets d'hommage, mais aussi leurs bouquets et surtout leurs présents. Et les autres membres de la société ne manquaient pas de démontrer à tous les adorateurs qui recherchaient si inutilement les bonnes grâces de cette étrange beauté son caractère altier et impérieux. Si bien que, parmi toute la société élégante de Pécht, Sarolta passait bientôt pour la plus austère des vertus et pour une femme d'une cruauté absolument diabolique. Dès lors, la réputation extraordinaire qu'elle avait acquise excita tout homme qui bâillait aux côtés d'une bonne et fidèle épouse à se laisser maltraiter par une courtisane sans cœur, et chaque jour apportait de nouveaux triomphes à la vertueuse écuyère. Un certain matin, comme Sarolta se reposait après une représentation des plus fatigantes au milieu de riches coussins de soie, sa camériste vint lui annoncer qu'un monsieur désirait instamment lui parler. Elle lui fit dire de revenir plus tard, mais il ne se lassa pas congédié ainsi et sollicita avec encore plus d'insistance la faveur d'une audience, passant sa carte à l'appui de sa requête. Sarolta, d'un geste impatient, prit le Bristol sur le plateau d'argent que lui tendait sa femme de chambre et lut « Julius, prince Parnacani ». Elle soutint sa belle tête de son bras superbe et sculptural et parut réfléchir, puis elle dit enfin « Bon, il peut entrer ». Le prince s'avança vivement tout près de sa couche. Mais, comme la redoutable femme renouait sa chevelure éparse qui lui encadrait le visage comme des rayons de soleil, il aperçut, à travers les moelleux replis de la couverture de fourrure sombre qu'elle avait jetée sur elle, sa gorge marmoréenne de Vénus, plus soulevée que voilée. Il en demeura un instant comme pétrifié, puis, revenu de son extase, il tomba à genoux devant elle. Sarolta le considéra de son regard fin et perçant et ne le congédia pas. Elle prenait plaisir à le voir. Elle ne pensa néanmoins pas qu'elle pût l'aimer un jour. Cependant, ce beau et fabuleusement riche magnat, âgé d'environ 50 ans, lui parut être absolument l'homme qu'il lui fallait, celui dont elle avait besoin et que depuis 3 ans elle ne cessait de rechercher, afin de mettre à exécution ce plan osé de haute ambition qu'elle caressait. « Mademoiselle, fit le prince, ne raillez mon entrée en matière, non, ne raillez pas. Je connais votre vertu, comme aussi votre caractère despotique. Je sais que vous ne tolérez que des esclaves. Je ne vous parlerai donc point d'amour, mais me permettrai de vous dire que depuis que je vous vis au manège hier soir pour la première fois, je vous adore comme je n'ai jamais encore adoré aucune femme, que tout ce que je possède vous appartient et que je ne désire rien tant que le droit d'être votre serviteur, votre esclave. Oh, mais vous devez désirer quelque chose de plus, reprit Sarolta avec un sourire aimable. Je mentirais si je vous disais « je vous aime ». Peut-être même ne suis-je pas du tout capable d'aimer un homme. Quoi qu'il en soit, vous m'inspirez un intérêt peu ordinaire. Puis-je donc aujourd'hui vous poser la question qu'hier, de votre loge, vous m'avez vous-même posée, à laquelle jamais au cours de ma carrière je ne me suis permis de répondre de façon effective à qui que ce soit. « Vous me rendez heureux au-delà de toute expression, » s'écria le prince, « et vous aurez aussi la gracieuseté de me permettre de vous servir comme si vous étiez ma maîtresse et moi votre humble serviteur. Moi, je ne suis pas accoutumé à dissimuler et suis parfois trop direct dans ma franchise, » dit Sarolta pour toute réponse. « Parce que je suis trop fier pour sceller mes sentiments ou cacher mes pensées. » C'est pourquoi je veux vous prier d'écouter ce que j'attends de vous. Si les transports que vous inspire l'écuyère s'évanouissent, alors éloignez-vous et oubliez-moi. Oh, non seulement je vous en garderai pas rancune, mais je vous en serai reconnaissante. Si, au contraire, vos sentiments à l'égard de cette femme sont tels que vous le dites et que vous soyez convaincu d'autre part que cette femme ne retient l'élan qui l'attire vers vous, que dans la crainte que tout votre enthousiasme ne soit qu'un feu de paille, et que si elle vous cédait, elle perdrait tous les brillants avantages qu'elle retire de sa profession, alors je serai à vous. « Parlez-vous sérieusement, Sarolta ?» s'écria le prince exultant. « Mais tout ce qu'il y a de plus sérieusement, alors vous m'appartenez. Ah, pas encore, écoutez d'abord mes conditions. » reprit l'écuyère. Dans 15 jours, mon engagement avec Tibaldi prend fin. Et le jour où mon contrat expirera, je vous appartiendrai, mais seulement, pourvu que je puisse jamais tourner le dos au manège. Assurez-moi une existence indépendante. Oh, je ne me soucie pas de la splendeur ni du luxe, et sûrement, hormis le cas où vous ne m'aimeriez plus, je serai à vous. « Dans 1 heure, dit-il, tout sera en règle. Jusque-là, portez-vous bien, ma petite despote. » Là-dessus, il s'inclina fort bas et se retira. Sarolta le suivit des yeux, puis elle lança un clair éclat de rire, le rire d'un démon triomphant. Chapitre 6. Un concours ecclésiastique. Dominant tout le monde à l'instar d'une reine, Sarolta, la belle écuyère, jadis Anna Clower, résidait dès lors dans l'antique château des Parcani comme maîtresse du prince. Elle y menait un train de maison d'un luxe fabuleux et s'amusait à maltraiter avec la dernière cruauté l'homme qui l'adorait, de même que tout son entourage. Le prince paraissait en effet, aux yeux du monde, accomplir seulement, en amant indulgent, toutes les fantaisies de Sarolta. Mais en vérité, il était follement épris d'elle et l'aimait avec une frénésie raisonnée. Un regard d'elle, un geste de sa main, un sourire de ses lèvres, l'engageait à supporter tous les sacrifices, toutes les tortures qu'il pesait à cette femme de lui infliger. Comme jadis au cirque, chacun au château, comme dans tous les villages appartenant au prince, tremblait devant elle. Elle donnait tous les ordres et infligeait elle-même, la plupart du temps, tous les châtiments avec l'aide d'une odieuse vieille du nom de Halka et de deux florissants, fortes et belles jeunes filles, nommées l'une Yéla, l'autre Elir Sabet, qu'elle avait choisie dans le voisinage et prise à son service. Si quelque serviteur ou paysan avait manqué à l'égard de ce tyran femelle, il recevait l'ordre de se rendre incontinent dans la chambre à coucher de Sarolta, qu'il trouvait alors d'habitude étendue sur un canapé. Elle lui rappelait sa faute et lui annonçait le châtiment qu'il avait encouru. Au moment même où il apprenait sa sentence, il se sentait empoigné de dos par les deux jeunes filles qui jusque-là étaient demeurées cachées derrière une portière. Ces dernières, avant même qu'il eût le temps de se rendre compte de ce qui allait se passer, l'avaient solidement ligoté, tout en lançant à l'infortunée victime les plaisanteries les plus cruelles, les deux belles aides-bourreaux de Sarolta ouvraient une trappe qui conduisait au rez-de-chaussée et entraînaient le malheureux par un escalier tournant jusqu'à une espèce de cachot situé au bas de cet escalier, suivi de la cruelle tyran. Là, le condamné était attaché à un poteau, puis Sarolta, aidé d'Yéla et d'Ersabet, le frappait jusqu'au sang avec une paire de longs kalchus, éprouvant à cette besogne une sorte de plaisir diabolique. Puis on l'abandonnait là toute la journée, tirant sur ses membres endoloris et mourant de faim. Voir souffrir des hommes était devenu pour lancer les cuillères une sorte de jouissance voluptueuse. Or, les amis et voisins du prince qui venaient en visite au château Parcani et participaient aux brillants banquets, aux chasses et aux parties de traîneaux organisées par Sarolta, formaient une espèce de cour à cette femme impérieuse et pétulante, bien qu'ils eussent eu, plus d'une fois, à souffrir de ses caprices souverains et de ses fantaisies cruelles. Un jour, elle fit tomber du plafond une véritable averse sur toute la société. Une autre fois, elle fit asseoir ses convives sur des orties. Elle ne les traitait toutes, à l'exception de deux, guère mieux que sa domesticité. L'un de ses favoris était un jeune et beau gentilhomme dont les propriétés étaient mitoyennes de celles du prince. Il se nommait Emmerich von Barthélemy. Dès l'échange du premier coup d'œil, cet homme avait éveillé dans le sein de marbre de cette femme sans cœur des sensations étranges. Et plus d'une fois, il arriva à cette dernière de se trahir vis-à-vis de lui, soit par manque de contrôle sur elle-même, soit par écart de langage, ce qui paraît une énigme à tout le monde. Mais Barthélemy, qui estimait le prince autant que sa maîtresse, le haïssait, reçut les avances de l'impérieuse femme avec une froideur qui rendit tout rapport entre eux impossible et ne fit qu'attiser la flamme de la passion sensuelle que le gentilhomme avait inspirée à Sarolta. Le second, qui la frappa et qu'elle remarqua aussi, fut le curé de Parcani, le père Christian. Ce dernier, jeune prêtre, d'extérieur engageant, que le célibat surexcitait, avait conçu pour Sarolta une passion infernale qu'il cherchait à développer encore en coquetant avec elle, à telle enseigne que finalement, elle escompta en partie son concours pour la réussite de son plan insidieux. Par une soirée étouffante d'été, le père Pistian vint au château et se fit conduire dans la chambre à coucher de Sarolta par la vieille Halka, femme de confiance de cette dernière, qui parmi les gens du peuple était connue sous le nom de vieille sorcière de Parcani. Le prince, étant allé à Pest, Sarolta attendait la visite du bien-aimé ecclésiastique et s'y était préparé. Comme il entra, elle était assise dans un fauteuil, vêtue d'un négligé de dentelle de Bruxelles à jour, et lisait un livre. D'un coup d'œil, elle congédia la vieille. Le père Pistian prit alors place à côté de Sarolta et saisit sa main et qu'il pressa contre ses lèvres enfiévrées de passion. « Vous avez bien fait de venir, » fit la rouée coquette. « Oh, je me sens aujourd'hui si malheureuse, si triste, qu'il vous faut me consoler. »« Ah, mais comment le pourrais-je, ayant moi-même si grand besoin de l'être ?» répondit le curé. « Vous ? Vous savez, Sarolta, combien je vous adore. Mais vous plaisantez sûrement. Mais comment pourriez-vous aimer la maîtresse que tout le monde aborde ? Oh, si vous saviez combien je souffre, soupira Pistian, vous ne seriez pas si cruel. Vous êtes alors bien malheureux, dit Sarolta, et moi aussi je le suis. Ben, examinons donc ensemble s'il n'y a pas moyen de nous aider l'un l'autre. Je ne nie pas que je pourrais vous aimer, mais je ne me risquerai jamais, comme maîtresse du prince, à vous prêter l'oreille. Si c'était découvert, il ne me resterait plus qu'à mendier. Vous possédez une grande influence sur l'esprit du prince. Décidez-le à faire de moi sa femme. Je vous appartiens. Pistian, transporté, se jeta aux pieds de la belle femme qu'il adorait, jura de la servir en tout et ajouta qu'en instrument docile, il ferait tout ce qu'elle exigerait de lui. Le prince, qui, comme tous ces aristocrates, manquait souvent volontiers aux préceptes de la morale, était extérieurement un pieux pratiquant et fréquentait régulièrement l'église, n'oubliant jamais d'aller chaque mois à confesse. Le père Pistian avait jusqu'ici eu la prudence de ne lui rappeler que d'une façon détournée et presque vague, l'obéissance que tout fidèle doit au commandement de l'Église. Mais, comme le mois suivant, le prince, d'un air humble et contrit, s'était agenouillé au banc de pénitence. Le curé commença par lui adresser de graves remontrances sur son immoralité. Le sermonna vivement quant à sa liaison irrégulière avec Sarolta, et finalement exigea qu'il la quitte sous peine d'encourir tous les châtiments temporels et éternels. Le prince versa des larmes et témoigna du plus profond repentir, mais protesta que cela lui coûterait la vie s'il lui fallait se séparer de la femme qui était son idole. Finalement, le rusé confesseur émit l'avis qu'il avait à dessein si finement réservé. Il donna au prince le conseil d'épouser Sarolta. Le pauvre pêcheur reprit haleine et loua ce conseil, disant que, sans plus tarder, il allait s'y conformer. Rentré au château, il manda Sarolta. « Elle est allée se confesser, » répondit la vieille. Une heure plus tard, la belle femme, vêtue d'une toilette sombre, les yeux rougis de larmes, revint elle-même et, s'agenouillant sur son prie-Dieu, se donna l'air d'être profondément absorbée en prière. Survint le prince, qui s'arrêta sur le seuil de la pièce, et le courage lui manquant d'interrompre Sarolta. Elle avait perçu ses pas, mais fit semblant de ne pas l'avoir remarqué. Enfin, elle se leva, soupira longuement, puis épongea ses larmes. Se tournant vers le prince, elle parut effrayée à sa vue, s'appuya un instant sur le dossier d'un siège, puis paraissant avoir mis de côté tout orgueil, se jeta à genoux devant lui. « Il nous faut nous séparer !» s'écria-t-elle, feignant d'être secouée par de violents sanglots. Je t'en conjure, ne me rends pas cette séparation plus dure qu'elle ne l'est déjà. Aie pitié de moi, laisse-moi m'en aller. Non, pas, non, pas, murmura le gentilhomme, relevant la belle femme bien-aimée, dont il posa doucement la tête contre sa propre poitrine. Oh, nous ne nous séparerons pas, s'arrota. Bon, j'ai déjà depuis longtemps éprouvé le même remords, qui semble aujourd'hui te torturer. Et je suis maintenant résolu à mettre un terme à une situation qui n'est digne ni de l'un ni de l'autre de nous deux. Je veux faire consacrer notre union par l'Église. Merci, merci, mille fois merci, s'écria Sarolta. Mais comment ai-je pu mériter ce sacrifice? Et parce que tu te montres envers moi une bonne et fidèle femme, fit le prince. Oui, et je le serai jusqu'à la fin de mes jours, murmura Sarolta. Oui, je serai ta servante et t'obéirai en esclave. Avec la hâte d'un fiancé amoureux qui ne peut plus attendre, le prince se garda bien d'annoncer à sa mère et à ses tantes son mariage avec la bien-aimée pour la Toussaint. Il en surveilla personnellement tous les préparatifs. Sur le désir exprès de Sarolta, dont chaque désir était un ordre pour le prince, la cérémonie eut lieu secrètement dans la chapelle du château. Le prince lui-même conduisit Sarolta à l'autel. Au lieu d'une couronne de rangée, l'ancienne écuyère portait un diadème étincelant de brillants. Au lieu de la robe blanche de l'innocence, elle avait revêtu une robe de velours rouge garnie d'hermine, avec un voile et une traîne de moire antique blanche relevée de dentelle de Bruxelles. Les témoins étaient Emmerich von Barthélemy et un certain vieux comte Xapari. Après une brillante, vibrante allocution sur le mariage, le père Pistian consacra les époux. Comme Sarolta quittait la chapelle au bras de son époux, le prince Parcani, un sourire étrange courut sur les lèvres sensuelles de la nouvelle princesse. Elle était enfin arrivée au but. Le lendemain de la cérémonie, le prince dut se rendre à Pest et y faire une emplette pour sa femme. Vers le soir, le père Pistian se fit annoncer. Comme il entra, Sarolta, vêtue d'une vapeureuse négligée sur laquelle elle avait passé une jaquette de velours bleu garnie d'hermine, reposait sur un épais canapé. Elle salua le prêtre en riant. « Vous êtes bien pressé, fit-elle, de venir prendre votre récompense. « Pourrais-je vous adorer autrement ? » répondit Christian. « Mais savez-vous ce que c'est que d'être mon esclave ? » reprit la cruelle belle d'un ton railleur. « Qui se met en danger y succombe. »« Alors, laissez-moi succomber !» s'écria Pistian hors de lui. Puis il se précipita à terre devant elle, tandis que, souriante, elle l'entourait de ses beaux bras. Chapitre 7. La sorcière de Parcani. Depuis le jour où Sarolta porta l'hermine de princesse, elle parut complètement changée. Sa haine de l'homme, son besoin de moquerie, semblait diminuer, comme aussi son penchant à la cruauté qu'il avait jusqu'ici fait redouter à 10 lieues à la ronde. Le prince était journellement de plus en plus surpris de la douceur et de la affabilité que témoignait maintenant sa femme, de la souplesse et de l'amabilité de son humeur, de l'empressement tout particulier qu'elle apportait désormais à deviner ses moindres désirs et à les exaucer aussitôt que possible. Il remerciait à tout propos le curé du conseil qu'il lui avait donné et causait chaque fois le plus profonde confusion au saint homme qui, dès qu'il se trouvait seul avec la princesse, devenait le plus enflammé des adorateurs. Près d'un an s'écoula ainsi Et cependant, le couple princier s'aima comme deux pigeons. Tous les amis de Parcadie se montraient épris de son épouse. Les grandes dames du voisinage commençaient à lui rendre visite. Et Emmerich von Berthelemy se mit lui aussi à s'amouracher d'elle et à faire en cachette des excuses à la femme sur laquelle il avait porté un jugement trop précipité. Par une sombre soirée d'octobre, alors que l'ouragan faisait trembler les fenêtres du vieux château et hurlait à travers les cheminées, le prince s'était rendu chez un voisin où avait lieu une réunion politique entre gens du même parti. Sarolta était seule, en proie à un ennui et une mélancolie indicibles, elle errait à travers le vaste bâtiment. Finalement, elle parvint à la salle des domestiques située au rez-de-chaussée et demanda à Kalka, la sorcière du Parcani, ainsi que les gens l'appelaient. Personne ne s'aventura à lui fournir des renseignements sur la vieille. Enfin, comme par deux autres fois, la princesse demandait où se trouvait la sorcière, Ferenc, jeune gamin effronté, groom du prince, s'écria: La sorcière est grimpée dans la tour pour s'y livrer à ses enchantements magiques. Là-dessus, Sarolta se mit à gravir les raides marches de l'étroit escalier tournant qui conduisait à la tour de garde, habitée seulement par les hiboux, les corbeaux et les rats. Comme elle atteignait la porte vermoulue de la petite chambre située immédiatement sous les créneaux, et où, à l'époque de la chevalerie, le veilleur se réfugiait, son oreille fut frappée par une étrange chanson monotone à laquelle une autre voix de femme répondait, et à ce moment, elle fut saisie d'effroi. Mais cette femme n'était pas en état d'intimider qui que ce soit. Sarolta frappa fortement à la porte et s'écria: Ouvre, Alka! C'est moi! Je viens te rendre visite dans ton antre de sorcière. La porte s'ouvrit aussitôt, et la sinistre vieille, emmaillotée dans un drap noir, un haillon rouge enveloppant à la façon d'un turban son visage rude et ravagé, accueillit sa visiteuse inattendue avec un ricanement amical. Sarolta se vit avec étonnement dans la petite pièce cintrée. À l'un des murs se trouvait fixé un fouet, sur le feu ardent duquel reposaient toutes sortes de creusets, de cornues et de matrasses. En face, une antique armoire, toute noircie par le temps, remplie de flacons de verre et de boîtes de toutes couleurs. Dans un coin, diverses plantes et racines. Dans l'autre, un haut fauteuil de cuir, sur le sommet doré duquel était perché un corbeau en train de picorer. Auprès de ce fauteuil, il y avait une table également couverte de creusets, de flacons et d'autres ustensiles utilisés par la vieille. Au milieu de cette table brillait d'une lueur blafarde une petite lampe rouge, dont la clarté crue donnait au plancher, là où elle tombait, l'air d'être maculé de sang. Deux gros chats noirs qui tenaient compagnie à la vieille se chauffaient les pattes au feu. Asseyez-vous, gracieuse princesse, fit Alka, tout en attirant Sarolta vers le fauteuil. Le corbeau battit des ailes, croassa et s'enfuit à terre. La belle femme prit une expression étrange, comme elle s'assit dans sa jaquette princière de velours rouge garnie d'hermine parmi les spectres fantastiques de cette poussiéreuse demeure. Maintenant, fit Sarolta en riant, fais-moi voir quelques-unes des pratiques de ton art, initie-moi un peu à tes secrets. Pourquoi pas, répondit la vieille. Je sais bien que vous ne trahirez pas. Oh, qui te l'a dit? Les astres, fit la vieille à voix basse. C'est là tout ce que tu as à me dire à mon sujet? Oh non! Alors parle. Mais je savais que vous viendriez vers moi, madame et aimable princesse, et que la pauvre vieille Alka pourrait vous être utile. Mais en quoi et comment penses-tu m'être utile? Demanda vivement Saroltar, presque interloqué. Par l'intermédiaire de celui qui connaît la nature et ses forces mystérieuses, par l'intermédiaire de celui que je sers, murmura la vieille. Là-dessus, elle se dirigea vers son armoire et en tira deux fioles sombres. Ici, fit-elle en désignant ces dernières, se trouve le moyen de retrouver jeunesse et beauté dont, grâce à Dieu, vous n'avez actuellement nul besoin. Qui sait, avec le temps. Alors dites-le-moi, je vous aiderai sûrement volontiers, chuchota la vieille. Mais hélas, le meilleur de mes connaissances n'aura jamais une occasion si facile de s'employer. C'est vrai? Demanda Sarolta. La vieille se jeta à bas de son escabeau et se précipita aux pieds de la princesse, puis dit: N'avez-vous jamais entendu parler d'une certaine dame hongroise, dont le nom m'échappe, qui était anxieuse de conserver une éternelle jeunesse? Oh, il y a de cela plus de 200 ans. Ah, tu veux dire la comtesse Báthory? Oui, c'est ça même. Eh bien, savez-vous quel fut le moyen qu'elle employa? Non, je l'ignore. Eh bien, le plus infaillible. Elle se baignait dans le sang humain. Vraiment, mais c'est affreux. Qu'y a-t-il là-dedans de si épouvantable? Continua la vieille. Autrefois, les gens possédaient des esclaves assez bons pour cette besogne, et aujourd'hui même, quelle femme ne connaît pas des hommes qu'elle hait ou qui sont ses ennemis et qu'elle sacrifierait avec plaisir en vue de prolonger sa propre vie et sa jeunesse? Mais nous en parlerons une autre fois, car je sais que vous n'êtes pas venu vers moi pour être initié à ce moyen de conserver la beauté, mais pour toute autre chose. Tu penses? La vieille présenta à Sarolta une petite fiole de couleur sombre. Qu'est-ce là? Du poison. Sarolta s'empara vivement de la bouteille. Au bout d'un instant, elle murmura: Ah, si tu veux me servir fidèlement, Halka, je te récompenserai comme une reine seule peut récompenser. Devant tout le monde. Retiens ta langue. Cette recommandation est inutile, fit la vieille avec un éclat de rire sinistre. Le sort m'a jusqu'ici traité assez durement pour me convaincre qu'il ne m'apporte rien que la souffrance. Je vous trahirai si peu que si c'est vous qui manquez à votre parole, nous descendrons ensemble à l'abîme. Sarolta sursauta. Encore une fois, fit la vieille, vous pouvez rien sans moi. Je connais votre plan, je l'ai lu dans les astres. Vous désirez être libre. Obéir n'est pas dans votre nature, dans votre sein sommeil un besoin de domination absolue. Votre plan réussira. Tout vous sera favorable sous tous les rapports, et vous aurez aussi la douce jouissance d'assouvir votre vengeance sur un ennemi. Néanmoins, oh, quoi qu'il arrive, n'agissez jamais sans consulter la vieille sorcière. Je te demanderai lorsque j'aurai besoin de toi, dit la princesse. Jusque-là, que Dieu protège votre grâce. Dès le lendemain matin, Sarolta s'enferma avec la vieille et s'entretint avec elle du projet qui depuis longtemps déjà était chose arrêtée. Halka donna le conseil de choisir avant tout la personne que l'on pourrait en toute sécurité accuser d'avoir commis le crime. Sarolta porta ses vues sur Ferenc, le valet de chambre du prince, et conçut aussitôt un plan aussi hardi qu'excessivement habile. Elle se rendrait au hâte dans le cabinet de travail de son époux pour lui réclamer le châtiment de son valet de chambre, qu'elle accuserait d'avoir cherché à attenter à son honneur. Le prince ajoutait la plus grande foi à ce qu'affirmait sa femme. Rouge de colère, il ne prêta aucune attention aux dénégations du malheureux Ferenc, mais le fit saisir par ses yeux-ducs, qui le lièrent sur un banc et le bâtonnèrent jusqu'à ce qu'il tombât en pâmoison. Lorsqu'il revint à lui, il reçut l'ordre de quitter le château sur l'heure. Il était néanmoins incapable de se mouvoir, si bien que les yeux-ducs le laissèrent coucher dans l'office. Comme la nuit vint, Charlotta, prétextant une indisposition, alla s'enfermer dans sa chambre à coucher, où l'attendait déjà la vieille. Selon son habitude, le prince lut jusqu'à 11 heures, heure à laquelle Ferenc avait coutume de lui apporter le breuvage qu'il prenait avant de se coucher. Cette fois-ci, ce fut Charlotta elle-même qui se présenta à l'improviste chez le prince. « Je suis cause, » fit-elle avec le plus doux sourire, « que Ferenc ne peut aujourd'hui faire son service, aussi bien suis-je venue à sa place. » Elle présenta au prince un gobelet d'or dans lequel il avait l'habitude de boire, mais auparavant elle fit semblant d'y tremper les lèvres et d'y goûter. « À ta santé !» s'écria le prince, comme il portait le gobelet à ses lèvres. Soudain, ce dernier s'échappa de ses mains et roula sur le plancher. Le prince chercha alors à se lever, mais au même instant, il retomba sur l'oreiller. Saolta s'approcha alors du lit avec l'air calme et froid d'un médecin et posa la main sur le cœur de son mari. Il était mort. Bientôt survint la vieille qui prit la petite fiole contenant le restant du poison et fit mine de sortir. « Et que vas-tu faire ?» demanda la princesse. « Mais le mettre dans la poche de la livrée de Ferenc !» murmura la sorcière. « Il est couché dans l'office, » dit la princesse. « Aie soin que personne ne te remarque. »« Oh, ils dorment déjà tous ce soir !» fit Alka en riant. J'ai mélangé quelque chose d'inoffensif à leur boisson de la nuit, ce qui nous laisse toute sécurité. » Là-dessus, elle s'éloigna, tandis que Charlotta regagnait sa chambre, se déshabillait et s'endormait tranquillement, comme si elle eût commis une bonne action. Le lendemain matin, elle éveilla tout le château en tirant la cloche de toutes ses forces. On trouva le prince mort dans son lit, du poison dans le gobelet dont il s'était servi, et ce même poison dans une petite fiole sur l'infortuné Ferenc. Ce dernier fut aussitôt mis au fer et amené chez le juge. La princesse prit part au débat en qualité de témoin. Elle soutint énergiquement que seul Ferenc pouvait être le coupable. Le jour où le meurtre eut lieu, il avait voulu lui faire violence, et le prince avait sévèrement fait châtier. Il était clair que, pour se venger, il avait empoisonné son infortuné mari, d'autant plus que ce même poison qui avait causé si subitement la mort du prince avait été trouvé sur lui. Ferenc fut condamné à mort. En vain la potence jura-t-il qu'il était innocent, on le livra au bourreau. De son équipage nonchalamment étendu sur les blancs coussins, la lorgnette bien braquée sur son infortunée victime, la princesse paraissait se repaître de ses épouvantables affres et convulsions. Le testament du prince la constituait seule propriétaire du château Parcani, de tout le reste de ses biens, ainsi que de sa colossale fortune.